Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire Drôme Ardèche. Aujourd'hui, 1er avril, jour férié, vous êtes à la maison et nous, on s'est déplacés dans le froid. Nous allons recevoir au téléphone aujourd'hui Philippe Billard, un travailleur du nucléaire. Mais avant d'avoir affaire à lui et de discuter avec lui, la parole à nos billettistes. Céline, tu voulais nous parler du Mali et puis du gouvernement.
Tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, à l'heure où François Hollande annonce le retrait progressif des forces françaises au Mali, je souhaitais revenir sur les raisons ayant poussé la France dans cette intervention. L'objectif affiché était la lutte contre le terrorisme et le souhait de voir le peuple du nord du Mali libéré du joug des groupes islamistes ayant pris le contrôle de la région. Monsieur Hollande, dans son uniforme de libérateur, en a récolté les fruits en termes d'image et a reçu les francs remerciements des Maliens. On ne peut d'ailleurs pas nier le soulagement pour ces populations de constater la retraite des groupes islamistes qui ont semé la terreur dans la région pendant des mois. Toutefois, ne soyons pas dupes. L'intervention de la France a été motivée par des considérations bien moins généreuses que ce qu'il pourrait paraître. La France a indiqué ne pas avoir d'intérêt économique au Mali. Ceci n'est pas tout à fait exact, car des entreprises françaises y ont participé, à des prospections minières et pétrolières. Et bien qu'encore inexploitées, les ressources maliennes semblent prometteuses. Par ailleurs, c'est dans cette même région géographique située à la frontière entre le Sahel et le Sahara et faisant partie du Niger par le simple effet d'une limite frontalière tracée à la règle sur une carte, qu'Areva exploite les mines d'Arlit et d'Akokane. Deux tiers de l'uranium utilisé pour l'alimentation des centrales nucléaires françaises provient aujourd'hui de ces sites. De plus, Areva, associée à l'État nigérien et à une société coréenne, a lancé en 2009 les travaux permettant l'exploitation de la mine d'Imouraren pour un investissement initial de plus d'1,2 milliard d'euros. Ce site est destiné à devenir le second plus gros site au monde de production d'uranium et devrait à terme assurer la moitié de l'approvisionnement des centrales françaises. Il n'est donc pas de l'intérêt d'Areva et de l'État français que l'influence des groupes islamistes ne se renforce dans la région et s'étende au Niger. Un élément confirme d'ailleurs ses craintes. Le 23 janvier, soit 12 jours après le début de l'intervention française au Mali, le ministre de la Défense, M. Le Drian, a donné son accord pour que le commandement des forces spéciales françaises vienne renforcer la sécurité des principaux sites d'exploitation d'uranium d'Areva. Notons d'ailleurs que c'est la première fois que ces forces sont utilisées pour garantir la protection de sites privés. Il semble donc bien que derrière l'image d'une action en faveur de la liberté, l'État français a décidé d'utiliser ses moyens militaires afin de renforcer son influence dans cette région d'Afrique et de pérenniser ses ressources en uranium. Quelles semblent loin les promesses du candidat Hollande ? La France-Afrique n'est pas morte et continue de servir les intérêts de l'industrie nucléaire, dont il est difficile de croire, au vu de l'investissement militaire de l'État français pour assurer son approvisionnement, que l'activité sera réduite à 50% en 2025.
Merci Céline. Alors Georges, tu es notre spécialiste au Fukushima, j'imagine que tu as encore plein de nouvelles.
Eh oui, toujours plus. Je vous salue. Donc, la première nouvelle, c'est le 13 mars, selon Canal+, une digue située à 20 km au sud de la centrale de Fukushima a été colmatée avec des sacs remplis de déchets radioactifs, non loin de la centrale électrique de Hirono. Selon Shogo Domae, c'est l'APEG qui en est à l'origine, car les Yakuza auraient ainsi saisi le marché de la décontamination sans obligation de suivre les règles de sécurité élémentaires concernant les déchets radioactifs. Officieusement, ces déchets sont balancés dans la nature sans aucun contrôle, car il y a 9 milliards d'euros sur 3 ans de promis par le gouvernement. Deuxième info, le 18 mars 2013 à 18h57, une coupure de courant a provoqué l'arrêt du système de refroidissement des 4 piscines. Celle des réacteurs 1, 3 et 4, et la piscine commune avec 1000 tonnes de combustible. D'après TEPCO, l'origine de la panne est un rongeur. Ne riez pas. Le niveau maximal de la température de l'eau, soit 65 degrés, mettrait 4 jours sans système de refroidissement. Deux jours après cet incident, TEPCO annonce avoir réparé entièrement. Notez que cette panne s'était déjà produite en juillet 2012, 2 ans après le tsunami. Il n'existe toujours pas de système de sécurité et de refroidissement accessoire. Troisième info, il faudra noter qu'il faudra 40 ans pour démanteler la centrale. Enfin, Dernière info sur la mer. La mer continue à se contaminer sans que l'on n'y puisse rien. Les infiltrations d'eau souterraine polluent le rivage sur le site de la centrale et le lessivage des sols par les eaux de pluie entraîne une augmentation de la contamination des sédiments dans l'embouchure des fleuves. C'est particulièrement flagrant dans la baie de Tokyo, où la contamination croît de jour en jour. Le pire est peut-être à venir. TEPCO est contraint d'injecter d'énormes quantités d'eau pour refroidir les combustibles fondus des réacteurs 1 et 3 de la centrale. Cette eau se contamine, s'infiltre dans les sous-sols des bâtiments réacteurs et menace de déborder dans la mer. TEPCO la pompe continuellement, la décontamine très partiellement et la réinjecte, mais de l'eau souterraine s'infiltre aussi, se contamine et augmente les stocks. Il en résulte que TEPCO ne sait plus où mettre les cuves pleines d'eau contaminée sur son site. Elle n'a d'autre perspective que de la rejeter en mer à plus ou moins longue échéance. Après une décontamination plus poussée, promet-elle, mais toujours partielle. La station de traitement prévue pour septembre 2012 ne fonctionne toujours pas. Voilà.
Merci Georges. Alors aujourd'hui, tu n'es manifestement pas le seul à vouloir parler du Japon. Je crois qu'Alain a choisi son indignation également sur Fukushima.
En effet, bonjour à tous. En préambule au dialogue avec un travailleur du nucléaire en France, je voulais vous parler de la difficile vie des liquidateurs de Fukushima. Ils sont environ 3000 à se relayer jour et nuit sur le site de la centrale accidentée de Fukushima au Japon. On les surnomme les liquidateurs car ce sont eux qui gèrent la catastrophe nucléaire depuis le 11 mars 2011, à l'image de celle de Tchernobyl 25 ans plus tôt. Si la situation sur le site est plus ou moins contrôlée, l'inquiétude et les effets sur la santé n'en perdurent pas moins pour ces travailleurs de l'extrême. Nombre d'entre eux, employés par des sous-traitants de l'exploitant du site, TEPCO, se plaignent du stress au travail, de la peur, de la solitude et de l'inconfort des longues journées passées à étouffer dans des masques, gants et blouses de protection. Un ouvrier déclarait ainsi à un journaliste « J'ai mal au ventre et je suis constamment stressé. Quand je reviens dans ma chambre, tout ce que je peux faire, c'est me soucier du lendemain. Ils devraient nous donner une médaille. » Cette tension, couplée avec la critique de l'opinion quant à la lenteur des opérations de décontamination, en aurait incité plusieurs à démissionner. D'autres confient leur manque de motivation, soulevant la perspective d'une pénurie de techniciens et d'experts lorsque le nettoyage de Fukushima atteindra son étape la plus critique, c'est-à-dire le retrait du combustible usagé des piscines de stockage. Ces travailleurs sont les plus exposés aux radiations nucléaires et ils participent d'un processus qui va durer des décennies. Pourtant, ils sont critiqués car ils appartiennent à TEPCO, explique un psychiatre du National Defense Medical College. Ils ne dirigent pas l'entreprise, ni ne sont responsables de la catastrophe, mais ils éprouvent un sentiment de culpabilité et de responsabilité. Ils méritent plus de respect, dans la mesure où ils font l'un des métiers les plus difficiles du monde. Les salariés de TEPCO risquent de suivre la trajectoire des vétérans de la guerre du Vietnam, qui se sont vus rejetés par la société à leur retour, ont fini sans abri, ont sombré dans l'alcoolisme et les drogues ou se sont suicidés, prévient l'expert, qui a mené une étude sur 1500 travailleurs japonais du nucléaire. Surtout, ces difficiles conditions de travail ne sont pas compensées par un salaire avantageux. Selon un sondage mené par TEPCO, près de 3200 travailleurs de septembre à octobre 2012, plus de 70% d'entre eux gagnaient 837 yens, soit 6 euros de l'heure, alors que les journaliers réguliers sur les chantiers de la région peuvent toucher jusqu'à 1500 yens, c'est-à-dire 12 euros. Le droit du travail n'était d'ailleurs pas respecté dans la moitié des cas, et un tiers de ces salariés ne possédaient même pas un contrat de travail. Depuis 2 ans, les opérations de décontamination ont été entachées de révélations sur les conditions de travail illégales et les violations des règlements sur la santé et la sécurité. Ce mois-ci, le ministère de la Santé japonais a ainsi divulgué qu'au moins 63 travailleurs de Fukushima avaient été exposés à des niveaux de radiation supérieurs à ceux enregistrés dans leur dossier personnel. Fin décembre dernier, 146 travailleurs TEPCO et 21 sous-traitants avaient par ailleurs dépassé leur exposition maximale admissible de 100 millisieverts sur 5 ans. Conditions difficiles, on le voit, mais il y a pire encore. Les ouvriers d'un sous-traitant ont été contraints de mentir sur la radioactivité pour que leur entreprise ne perde pas le contrat. En décembre, le quotidien Asahi Shimbun a révélé que la société de construction Build Up aurait demandé à une dizaine de ses ouvriers de recouvrir de plomb leur dosimètre, instrument servant à évaluer le cumul de radiation auquel ils étaient exposés, lorsqu'ils intervenaient dans les zones les plus radioactives de la centrale accidentée afin de sous-déclarer leur exposition et permettre à la société de continuer à travailler sur le site. Plusieurs ouvriers de build-up ont confié au journal qu'en décembre, un haut responsable de la société, leur superviseur sur place, leur avait expliqué qu'il portait un boîtier en plomb pour arrêter une partie des radiations et leur avait demandé d'en faire de même. Ce responsable leur aurait expliqué que s'ils ne truquaient pas leur niveau d'exposition, ils atteindraient rapidement le niveau maximal annuel légal de 50 millisieverts selon le quotidien, qui précise que les ouvriers sont en possession d'un enregistrement du briefing. Certains ouvriers ont refusé de recouvrir leur dosimètre et ont quitté la société, estimant que leur vie valait mieux que les profits de leur patron. Rendons hommage alors au courage de ces liquidateurs qui, malgré les radiations, les scandales et les fraudes, se sacrifient pour permettre la survie des autres.
Merci Alain. Eh bien, en préambule un peu avec notre discussion avec Philippe tout à l'heure, et puis surtout un peu à la suite de ton billet, une chanson de Bernard Lavilliers, Les Mains d'Or, et qui parle justement, malgré les difficultés du travail, de l'attachement quand même à son travail. Et je pense que ce sera un bon engagement à la discussion avec Philippe tout à l'heure. Les Mains d'Or de Bernard Lavilliers.
Les Mains d'Or. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant.
Je voudrais travailler encore,
forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Travailler encore,
acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce labyrinthe noir.
Forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Travailler
encore,
acier rouge
et mains d'or.
Travailler
encore,
forger l'acier rouge
avec mes mains d'or.
Lors des opérations de tranche, 2000 salariés sous-traitants interviennent tant à Cruas qu'au Tricastin. Ces nomades du nucléaire, comme on les appelle, 20 000 en France, autant que de salariés EDF, interviennent sur les 58 réacteurs. Ils sont embauchés par de multiples entreprises qui jouent la concurrence entre elles pour faire à la fois baisser les salaires et, avec la complicité d'EDF, s'arranger par le biais des renouvellements de contrats à casser les équipes syndicales. Plusieurs semaines de grève ont été nécessaires en août 2012 sur Cruas pour faire reculer EDF. Nous en avons parlé sur cette émission. Perte de mémoire des lieux et des techniques, boulot pénible et les plus exposés aux radiations, la situation de ces salariés met à la fois leur santé, voire leur vie, en danger, et la sécurité des réacteurs et donc des populations également en danger. Avec nous pour en parler, Philippe Billard.
Oui, Philippe Billard est un militant CGT qui travaille dans la sous-traitance du nucléaire, ou plutôt qui travaillait dans la sous-traitance du nucléaire pendant des années, dans une filiale de GDF Suez. Actuellement en conflit avec son employeur, il a été muté dans une autre société, GDF Suez, sous-traitant, mais qui s'occupe plus directement de nucléaire. Mais il va nous en parler. Il a été tellement marqué par son passage dans la sous-traitance du nucléaire qu'il a créé une association qui s'appelle Santé et sous-traitance. Et il va nous parler de tout ça. Nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui par téléphone, puisqu'il habite en Normandie. Bonjour Philippe, la
oui,
parole est
bonjour.
À toi.
Oui, bonjour. Ouais, donc, t'as presque tout dit. Mais voilà, ouais, je suis un ex-salarié de la sous-traitance du nucléaire. J'ai commencé en 85 pour finir être mis à la porte à la demande d'EDF en 2006. Donc, pour avoir agi en tant que militant syndical et membre de CHSCT sur la santé au travail.
D'accord.
On dénombrait de plus en plus de camarades malades. Et puis les cadences de travail infernales, de plus en plus de contamination interne, pas le temps de faire le boulot. Donc c'est ce qui m'a amené à me battre et à me faire mettre dehors par EDF. Quoi.
Alors justement Philippe, tout à l'heure on évoquait un arrêt de tranche. En fait, un arrêt de tranche, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moment où on arrête le réacteur nucléaire pour procéder à son entretien et à son nettoyage. Donc aujourd'hui on sait que pour la plupart des gens qui s'occupent de ça sont des sous-traitants. Est-ce que tu pourrais nous dire Philippe concrètement comment se passe un arrêt de tranche? En fait, qu'est-ce que l'on fait pendant un arrêt de tranche? Comment on fait intervenir les différents corps de métier, puisqu'il doit y avoir des gens qui s'occupent des câbles, d'autres des cuves, d'autres du matériel électrique? Comment ça s'organise? Comment ça se passe? Comment vous coordonnez? Quels sont les problèmes? Quelles sont les difficultés? Tu veux bien nous parler de tout ça?
Alors donc l'arrêt il est prévu pour changer un tiers du combustible. Donc on arrête, un planning est fait par EDF, un planning des travaux. Donc chaque société va se suivre et plusieurs travaux vont être lancés en même temps. Donc on a tous les travaux de mécanique, soudure, décontamination. Donc décontamination, c'est un petit peu les liquidateurs de Fukushima, de Tchernobyl, c'est-à-dire ouais. qu'on assainit la radioactivité, on la retire ou on la diminue par biais de décontamination. Donc c'est les premiers intervenants, ce sont ces personnes-là, ces salariés-là. Ensuite, on a les échafaudeurs, les décalorifugeurs pour accéder aux tuyaux, aux vannes. Et puis arrive derrière toute la maintenance, on va dire, mécanique. Sur tout ce qui est robinetterie et tout ce qui est tuyauterie soudure.
Mais pardon, excuse-moi, mais en gros, dans une cuve, vous êtes combien à un temps T? Et combien de personnes qui descendent dans la cuve et qui travaillent ensemble?
Alors, on ne descend jamais dans la cuve, hein, parce que sinon, on y resterait. Si tu veux, on descend si tu veux, la cuve, elle est sous la piscine du bâtiment réacteur. Nous, ce qu'on fait, on fait une décontamination de la piscine du réacteur. Cette piscine, elle sert au chargement, au déchargement. Donc, tu as environ à peu près 18 mètres d'eau. Ça, c'est pour sortir les éléments combustibles et ne pas être irradié. La hauteur d'eau, c'est de l'eau borée. Hein. Donc, la hauteur d'eau permet aux acteurs qui vont décharger le cœur d'être moins irradiés, on va dire.
Mais toi personnellement, quel métier tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais dans ces opérations-là?
Là-dedans.
Tu t'occupais
j'ai fait
de quoi?
De la mécanique, j'ai fait mais beaucoup de décontamination, hein, beaucoup de la liquidation de radioactivité. On est des décontamineurs, c'est-à-dire qu'on retire les poussières radioactives qui sont collées contre les parois dans les tuyaux. On pose des écrans biologiques, c'est-à-dire des écrans de plomb pour que diminuer la radioactivité. Donc nous, on est fortement irradiés pour que les autres métiers plus nobles, comme les tuyauteurs ou les mécaniciens, prennent moins de doses. Quoi.
D'accord, donc vous intervenez en première intention, mais vous êtes équipé, vous avez des combinaisons, vous avez des masques, comment ça se passe?
Concernant la radioactivité, on n'a rien en protection, de toute façon, puisque je te disais, pour que les autres prennent moins de doses, on met des écrans de plomb. Donc nous, ces écrans-là, ben, on les avait pas au moment où on mettait on les posait, quoi. Donc on était directement sur les sources. Et puis après, t'as la contamination interne. Hein, donc là, les contaminations internes, on a, comme le bonhomme Michelin, des tenues dites mireux roi, qui nous et on est ventilé. La tenue est complètement ventilée.
Comme des scaphandres de cosmonautes, un peu.
Ouais, c'est ça. Donc ça nous protège des poussières radioactives pour pas qu'elles rentrent à l'intérieur. Mais ça ne nous protège pas de l'irradiation qui, elle, de toute façon, on traverse tout.
Et vous restiez combien de temps en zone contaminée comme ça, par jour?
Tout dépend de la puissance de la radioactivité, on va dire, pour que tout le monde comprenne bien. Parfois, ça peut être sur une action. Moi, j'ai vu faire des déplacements sur des centrales où ils venaient de tourner avec du MOX. Les tranches étaient beaucoup plus radioactives. Et on a vu faire des actions de quelques minutes, on va dire de 2 minutes, pour descendre un point chaud avec une dose cumulée de 7 millisieverts au Safimo, sachant qu'on a le droit à 20 dans une année, pour 1600 heures à peu près de travail dans une année. Donc on voit bien que là, on est fortement exposé, hein. C'est pour ça que j'aime à dire qu'on est des liquidateurs. Parce que c'est la vérité, quoi. On est exposé en très peu de temps et on prend d'énormes doses en très peu de temps. Hein.
Bien sûr.
Ce que tu décris du métier, Philippe, là, ça, on imagine donc, puisqu'il faut travailler rapidement, à la fois une très grande compétence technique, une connaissance quasiment de tous les réacteurs, puisque vous vous promenez partout, mais aussi un grand stress pour les salariés qui travaillent.
Une grande compétence. Mais ça, c'est la compétence que nous, on acquiert nous-mêmes, parce que y a l'EDF ainsi que nos employeurs mettent rien en place, dans formation ou autre chose, pour qu'on acquiert cette compétence-là. On va l'acquérir avec le temps. On sait qu'à tel endroit, on aura tel problème, parce que c'est notre ancienneté qui fait que... le temps qu'on passe à l'intérieur, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui fait la force des employeurs aujourd'hui, c'est qu'on est hyper compétent, et ce qui fait qu'on prend beaucoup moins de doses et beaucoup moins de risques. Et eux, en contrepartie, ils ne font rien pour diminuer toutes ces doses-là. Ils comptent sur notre compétence pour y arriver, et on y arrive. Mais c'est pas grâce à eux, parce que eux, ils mettent aucun moyen. Moi, j'ai connu des époques où on était un petit peu robotisé, où on avait du gros matériel, ou ce qui nous permettait de moins être exposés. Aujourd'hui, ils ont retiré tout ce matériel-là pour mettre des êtres humains à la place, quoi. Alors, on avait des machines de décontamination, et aujourd'hui, ils ont retiré les machines parce que ça coûtait trop cher, et puis ils ont remis des êtres humains, parce que, de toute façon, nous, on revient pas cher, hein, le coût d'un salarié de la sous-traitance. Si on prend dans son ensemble, au moment où il va rentrer jusqu'au moment où il va être malade, sachant que c'est plus EDF qui va avoir à gérer la maladie, on coûte pas cher, quoi.
Justement, à propos de rentabilité, on sait que maintenant, les arrêts de tranches sont de plus en plus réduits en délai. Les temps sont de plus en plus courts, ils vont travailler de plus en plus vite. Est-ce que ça rend pas les choses aussi plus dangereuses?
Ça rend les choses plus dangereuses, mais ça rend aussi ça met de la tension dans les équipes, puisque chacun suit l'autre. Donc si un fait une bêtise, on va dire, met en retard l'autre, et met en retard tout le planning EDF, et puis là derrière vous avez la pression d'EDF qui commence à tomber, et puis vous êtes en stress permanent, et puis il faut faire toujours plus vite, et puis c'est surtout que il faut faire un travail prescrit, mais pas un travail réel, parce que si on devait faire le travail réel, il nous faudrait beaucoup plus de temps. Quand on démonte une pompe et qu'on voit qu'il y a un problème dessus, faut avoir le temps de prendre les mesures, de dire ben voilà, on a un voile sur la sur l'arbre d'un dixième, l'arbre il est pas bon, de l'autre côté on est dire on s'en fout, on remonte. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. On fait jamais un vrai travail, on fait le travail que EDF nous a prescrit. Donc et souvent on remonte les organes dans l'état où on les trouve. Alors que si on normalement on ne devrait pas le faire. On devrait faire le réel travail, c'est-à-dire on démonte, on remet en état, on prend le temps de repasser les pièces, de les refaire et tout. Là, c'est pas le cas, quoi. Là faut remonter, quoi.
C'est-à-dire, Philippe, c'est un peu inquiétant ce que tu nous dis. Tu dis qu'aujourd'hui, c'est fait un peu à la va-vite, l'entretien et les réparations. Et ça veut dire que la sécurité ou la sûreté des réacteurs, elle est quand même pas optimale. Donc, les risques sont quand même inhérents, pas seulement aux machines, mais aussi à la qualité du travail fait par les hommes. Et comme on vous donne pas les moyens de le faire, ça pose des problèmes.
Ça pose d'énormes problèmes. Hein. Et la chance qu'ils ont encore EDF, c'est parce qu'il y a des gens, les salariés sont hyper compétents. Le jour, voilà, mais il y en a déjà pas mal d'équipes qui se disent, bah, de toute façon, c'est pas la peine de faire des retours d'expérience ou autre chose. Ça vend jamais. On va nous dire de remonter, donc faut remonter. Puis quand quelqu'un ne veut pas remonter, on l'a vu dans le film de RAS, il hein, y a un gars qui parle en disant, voilà, moi j'ai trouvé une rayure, mais je ne sais pas vous dire si c'est une rayure ou une fissure. Voilà, je me prononce pas. Bah, c'est notre équipe qui vient, une équipe où on y met la pression, et puis on lui dit bah voilà, faut que tu fasses parce que de toute façon ton travail en dépend. Et puis comme on est en, comme tu as dit tout à l'heure, en compétence, pas en compétence, mais on est j'ai plus le mot en tête.
En retour d'expérience.
Donc chaque boîte se bat l'une contre
en compétition. Vous êtes en compétition, en concurrence.
Comment? Tu me disais ?
Vous êtes en compétition, en concurrence.
Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. On est en concurrence, donc de toute façon, si nous on veut pas faire le boulot, il y a une autre boîte qui va venir. Et puis si on le fait pas, ben, c'est nos collègues de travail qui vont dire ouais, arrête tes conneries, tu vas nous faire perdre le boulot, nous on a besoin de vivre et tout, faut qu'on gratte. Donc voilà, tu fermes ta gueule et puis tu fais le boulot, quoi. C'est comme ça que ça se passe, quoi.
Eh bien, on va gratter justement sur ce sujet-là juste après une petite pause musicale. Philippe, tu restes en ligne, hein, on te reprend dans 3 minutes et on va justement voir un peu cette concurrence entre entreprises. Merci.
Avec nos bidons en fer blanc, on descend de chercher le lait. À la ferme au soleil couchant, dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor. Et on allait cueillir les murs en bas, dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu les dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir. Ivre de joie et sans le savoir, on reprenait mers et kébir. Puis c'était nos chars en niki contre les tigres d'Orifant qui libéraient la French Beauty en bas dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école, quand les filles nous jouent leur saison pour une huit de Royal Mentor. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous a goûté leur framboise en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts.
Nous sommes toujours avec Philippe, tu es toujours en ligne ?
Oui, toujours.
Oui, très bien. Bon, tu parlais justement de la concurrence et puis de la pression qui vous est mise justement par cette concurrence. On aurait une question, nous, toi tu es des militants CGT, est-ce que dans le personnel sous-traitant, il y a le même poids syndical, en tout cas la même syndicalisation que dans le personnel EDF ?
Non, c'est absolument pas. Et en plus, la sous-traitance, elle sert aussi à ça, hein. Elle sert aussi à casser le socle social au travers des organisations syndicales. Puisque nous, il faut savoir que les agents EDF, eux, qui sont élus en tant que membres d'EP, délégués du personnel ou membres de CHSCT, comité d'hygiène et de sécurité, ou membres de comité d'entreprise, eux, ils sont élus pour le site où ils travaillent. Nous, la différence, c'est qu'on est élus dans une entreprise. Avec des salariés qui vont travailler sur quasiment toutes les centrales de France. Avec 20 heures de mandat, il faut galoper dans tous les sites pour pouvoir faire des revendications et mettre la prévention en place que l'on souhaiterait. Autant dire que c'est complètement irréalisable. Si vous voulez, dans le code du travail aujourd'hui, le législateur, il n'a pas prévu que pour les représentants du personnel de la sous-traitance, qu'il y ait plus d'heures pour qu'ils fassent leur boulot. Le code du travail, c'est pour les élus qui sont dans leur entreprise, mais nous, nos entreprises, ils sont à disposition de DF. Voilà, c'est complètement irréalisable, et puis c'est extrêmement dur de faire adhérer les salariés, même de leur faire prendre des mandats, parce que quand on voit la puissance avec laquelle ils tapent sur ceux qui sont engagés, moi j'ai vécu ça, les gens ont pas trop envie de s'engager pour se défendre, quoi, parce que en face on a quand même des tueurs, quoi, c'est quand même ils ont le fric qu'on leur fait gagner pour nous virer ou nous faire fermer notre gueule. Voilà, moi j'ai quand même eu 6 ans de procédure, une procédure lourde. Donc ils ont tous les moyens pour nous évacuer des chantiers quand on l'ouvre trop, quoi.
Oui, donc c'est vraiment la stratégie du diviser pour régner, et ce, dans un secteur particulièrement dangereux. Mais là, si j'ai bien compris, donc aucun salarié sous-traitant ne participe en fait au comité d'hygiène sécurité de Cruas ou à celui de Tricastin.
Non, ils sont élus dans leur entreprise, pas dans le CHSCT d'EDF de CET.
Oui, alors ça, c'est particulièrement dangereux, Alain.
Oui, alors moi, Philippe, je voulais t'interroger sur une question dont on parle beaucoup concernant la sous-traitance. C'est ce qu'on appelle la gestion de l'emploi par la dose. Alors, j'ai écouté récemment une sociologue qui parlait de ce sujet, mais j'aimerais avoir ton expérience vécue. Et cette personne disait que un des graves problèmes des travailleurs du nucléaire, c'est qu'ils prennent des doses de rayons assez fortes parfois, et qu'à ce moment-là, on les met au chômage. Dès qu'ils ont atteint la dose maximum, on leur demande d'arrêter de travailler. Donc, ça veut dire mise au chômage, donc perte d'emploi même momentanée. 2, baisse de rémunération. 3, perte de chance de promotion, parce qu'effectivement, si tu ne travailles pas à temps plein, bah, tu n'as pas les mêmes chances que ceux qui bossent à temps plein. Et enfin, dernier élément, difficulté de prouver la maladie professionnelle et de la faire reconnaître, puisqu'effectivement, vous êtes une fois en travail, une fois pas en travail. En fait, en plus, vous êtes des nomades, vous allez d'une centrale à l'autre, dans tous les coins du territoire. Donc, est-ce que tu peux nous parler, toi, de cette façon de gérer l'emploi par la dose dans la sous-traitance, et quel est ton vécu personnel par rapport à ça ?
Voilà, donc, il est vrai que... À une certaine époque, un peu moins maintenant, mais à une certaine époque, l'emploi, il est toujours géré, l'emploi est toujours géré par la dose. Mais disons qu'à une certaine époque, on avait des contrats à durée de chantier, donc et c'était en fait à durée de dose, quoi. Donc le gars, il devait prendre 50 millisieverts dans l'année. Si au bout de 3 mois, il était arrivé à 48, tu penses bien qu'à un moment donné... Il allait se retrouver sans boulot, donc ce que faisaient les mecs, c'est qu'ils planquaient les appareils qu'ils devaient porter, c'est-à-dire les Safimo et les films, ils les déposaient dans un endroit où il n'y avait pas de dose, et puis ils allaient bosser comme ça. Bon, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a toujours ce problème-là, parce qu'on a des permis de travail radiologique, c'est-à-dire que EDF fait un calcul savant du travail que l'on va faire, le temps qu'on va passer, avec le débit de dose qu'il y a sur le lieu de travail, et ils nous disent, voilà, vous avez une demi-heure pour faire le boulot, pour prendre telle dose. Donc, vous pensez bien que si le gars, lui, comme le boulot, il veut réaliser son travail, mais pas faire le travail prescrit par EDF, il y a à un moment donné, si vous voulez, il va y avoir un boulon qui est rouillé ou qui a grippé, et au lieu d'être sorti dans le calcul EDF en 30 secondes, bah, le mec il va passer une heure dessus. peut-être moins, mais ça, s'il reste dessus, c'est-à-dire qu'il va prendre plus de doses. S'il prend plus de doses que ce qui est écrit par EDF, ben le mec, il va passer quasiment devant un petit tribunal chez EDF en interne à la centrale pour s'expliquer de pourquoi il a pris cette dose, quoi.
Hein,
et puis on va lui dire, ben c'est pas bien, vous êtes un mauvais salarié, vous auriez dû arrêter avant, et puis nous expliquer patata patati, mais de toute façon ça n'aura rien changé, puisqu'il aurait quand même fallu faire le boulot. Donc on a toujours ce... Donc à mon avis, aujourd'hui, on a encore des gars, quand ils voient que la dose va être atteinte et que le boulot est pas fait, ben, je pense que ça continue, parce qu'on me l'a dit, certains collègues le disent, ben, ils planquent les appareils de mesure, et puis ils finissent au boulot comme ça, quoi.
C'est quand même très
donc,
grave.
Mais toujours une gestion de cet emploi par la dose, c'est clair.
Mais alors justement, quand même, qu'est-ce qui est prévu pour vous, travailleurs sous-traitants dans le nucléaire, comme suivi médical et comme prévention ?
Eh ben, en prévention, il n'y a rien, puisque de toute façon, EDF a le droit de nous irradier à 20 millisieverts par an. Donc, ils restent dans ce droit-là, ils font rien pour descendre. Alors, ils vous diront toujours, ouais, mais par rapport aux dernières années, regardez, on a vachement baissé tout ce qui s'ensuit. Bah, moi, je dis, la dose, c'est aussi... sur place qu'il faut voir sur les chantiers, c'est-à-dire les moyens qui nous mettent à disposition. Les moyens, il y en a pas, ils ont pas robotisé, voilà quoi. Donc il y a beaucoup de choses qu'on retrouve plus, quoi.
Donc pas de prévention, d'accord, mais un suivi médical, vous êtes
le suivi médical, il est complètement absurde, le suivi médical. On a une prise de sang tous les deux ans.
Tous les deux ans.
Même si on en avait une tous les 10 minutes, c'est pas pour autant qu'on irait mieux, je veux dire. Le suivi médical, il est même pas adapté, parce que quand on sort de là-dedans du nucléaire, on n'est plus du tout suivi par les médecins. Vous allez passer une visite médicale pour devenir DATR, travailleur directement affecté aux travaux sur rayonnement ionisant. On vous fait ouvrir la bouche, dites A, dites E, regardez la en face, dites-moi les lettres que vous voyez, un coup sur le genou, un coup
c'est
sur
très sommaire, c'est très sommaire, donc.
Genou, tout fonctionne bien, et vous êtes apte au rayonnement ionisant. Mm-hmm. Mais moi je me dis toujours, et je l'avais demandé moi à mon médecin du travail à une époque, comment fait-elle pour me rendre apte scientifiquement au rayonnement ionisant? Qu'est-ce que moi j'ai de moins ou de plus que toi ou d'un autre auditeur pour être apte à quelque chose qui va me foutre ma santé en l'air?
D'accord. C'est quand même pas très rassurant tout ça. Mais justement,
mais non,
je crois que tu as créé une association qui s'appelle Santé,
oui,
et Sous-traitance, pour venir en aide justement aux autres travailleurs du nucléaire. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors,
son rôle et de son
avec quelques
action.
Collègues de la sous-traitance du nucléaire, on a monté cette association parce qu'on se rendait compte qu'on était il y avait de plus en plus de malades, et que les malades, ils étaient écartés du boulot, ils se retrouvaient seuls chez eux et ils combattaient. Ils combattent pas, les gars, parce qu'à la base, à la dose qu'on nous dit, qu'on nous donne, on nous dit qu'on sera jamais malade. Donc les gars, dans leur tête, bon, c'est pas dû au rayonnement ionisant quand ils sont malades.
Et on
donc,
peut
on a demandé cette association, parce qu'il y en a plusieurs qui sont, avec qui on était en contact et qu'on a vu malade et qu'on s'est dit, à l'extérieur, on n'a aucun outil pour les aider, quoi. Donc on a monté cette association qui est un petit peu la copie de la DEVAS qu'elle a fait pour l'amiante. Et voilà, on aide des salariés à monter des dossiers de reconnaissance de maladies professionnelles et de fautes inexcusables contre l'employeur, parce que bien sûr, l'employeur, il a lui une obligation de résultat sur la santé au travail, et qu'à partir du moment où le salarié a été malade et qu'il a déclaré un cancer, c'est que le patron n'a pas fait son boulot correctement, donc il est en faute inexcusable.
Philippe, donc, pour conclure, parce qu'on va...
Ouais.
Je pense qu'on va pouvoir... On pourrait en reparler, d'ailleurs je pense qu'on en reparlera sur notre émission. Tu peux nous donner l'adresse, une adresse internet de votre association?
Oui, alors c'est www.sst-nucléaire-chimie.org.
Bon, on le mettra sur notre site aussi. On te remercie beaucoup, Philippe.
Ok, ça marche.
Et puis, on te rappellera de toute façon une autre émission qu'on essaiera de refaire également sur le sujet des travailleurs du nucléaire.
Je pense qu'il faut quand même qu'on lance le débat sur le sacrifice acceptable ou pas des salariés de la sous-traitance.
Complètement. Bah, écoute, je pense qu'on fera une émission spéciale, et puis on en profite ici, nous, pour apporter notre soutien aux travailleurs du nucléaire qui luttent régulièrement, comme ça s'est produit à Cruas donc l'an dernier.
Ok, merci bien.
Pierrick, c'est à toi maintenant pour nous parler l'agenda, et merci Philippe.
Alors, en ce jour de Pâques, je vais sonner les cloches, plus exactement battre le rappel, avec un agenda qui est très chargé pour le mois d'avril, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le 26 avril 86 a eu lieu la catastrophe de Tchernobyl. On a tendance à beaucoup parler de Fukushima, mais Tchernobyl, on n'oublie pas. Alors, je vous invite à regarder rapidement à la télé ce mardi, et bien évidemment, vous pouvez le voir en replay, Le Monde d'après Fukushima, qui est visible sur Arte. Également, vous avez la possibilité de voir le 6, les copains et copines qui militent avec la zone d'exclusion des pollutions à long terme en cas d'accident nucléaire. Ça se passe toujours Porte Neuve à Valence et ça a lieu tous les samedis matins à partir de 10h. Et surtout, je vous invite à participer au premier forum citoyen Oui à la transition énergétique et écologique qui est organisé par un collectif Ardéchois. Un grand forum qui a lieu sur 2 jours, le samedi 13 et le dimanche 14 avril. Ça commence à 10h le matin dans les deux cas. Vous avez la possibilité d'assister à des débats, des pièces de théâtre, à des animations, à différentes visites d'unités de méthanisation également. Il y a un grand bal festif qui est prévu le samedi soir à 22h. À ne pas rater, à 16h30 le samedi, le débat « Quel avenir pour l'énergie nucléaire ?» La transition énergétique, bien évidemment, ça signifie l'arrêt du nucléaire, civil et militaire. Vous avez aussi la possibilité, le dimanche 14 avril, de continuer la discussion, de venir vous faire votre propre idée, ne pas considérer tous ces arguments comme étant déjà digérés, mais à venir les mâchouiller avec nous, avec plaisir. Et donc, c'est très important d'aller à Villeneuve-de-Berre le 13 et 14 avril pour ce premier forum citoyen, oui à la transition énergétique. Vous avez également une marche antinucléaire qui est organisée du 15 au 26 avril pour se terminer le jour de l'anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, à l'appel du collectif Camp 84 qui traversera les 4 départements, donc les Alpes de Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse, et qui s'achèvera le 26 avril. Au Tricastin, je vous invite à consulter leur site collectif antinucléaire 84 pour avoir toutes les informations. Vous avez le 20 avril la chance de pouvoir participer à notre assemblée générale, l'assemblée générale de sortir du nucléaire en Dromardèche, où vous êtes les bienvenus à partir de 17h30 à L'Oriol, à Livron, pardon, à la salle des Petits Robins, et nous comptons sur votre participation. Vous avez également la possibilité le 21 avril de participer en Avignon sur l'île de la Liberté à La Barthelas à une fête rassemblement anti-nucléaire avec des débats, des stands, de la musique, des vidéoprojections. C'est ouvert à tous, l'entrée est à 1€. Vous avez la possibilité de venir voir le stand des différentes associations présentes également. Il y a le 23 avril une journée internationale d'action pour le désarmement à Genève, à l'occasion de la conférence préparatoire pour la révision du traité de non-prolifération. Je vous invite à consulter les informations sur Armes Nucléaires Stop, qui est un collectif qui demande l'arrêt du nucléaire militaire précisément. Et je veux vous parler de ce qui va avoir lieu à compter du 26 avril, c'est-à-dire une grande campagne qui est organisée par le réseau Sortir du Nucléaire. C'est une campagne qui fournit un cadre global et cohérent pour agir au niveau local et pour que les groupes concernés, donc tous les groupes avec qui nous faisons les émissions, puissent s'inscrire dans une action d'ampleur nationale clairement identifiable avec 4 axes qui concernent le nucléaire, de la mine aux déchets, tous concernés. Alors en premier lieu, donc tout ce qui est arrivée du combustible et fabrication du combustible, en deuxième lieu le retraitement, en troisième lieu le stockage des déchets et les enfouissements, et en quatrième axe les transports. N'oubliez pas qu'il y a encore eu un déraillement en janvier dernier à Saint-Rambert-d'Albon et qu'on est concerné au premier chef. Voilà, donc je vous invite à participer à toutes ces actions et notamment au rassemblement qui aura lieu à 10h30 le 26 avril en gare de Montélimar pour aller prêter main forte à la marche qui est organisée par le camp 84. Et puis le 26 avril, bien évidemment, au rassemblement de ce même collectif. Notre réunion mensuelle a lieu le dernier lundi du mois, le 29, et vous avez la possibilité de participer au premier pique-nique de la saison le 3 mai. Alors c'est déjà plus au mois d'avril, mais comme notre émission aura lieu après. Là, je vous invite tout de suite à passer à Mamani Kietan qui va nous interpréter Sinikan. Nous avons eu la possibilité d'écouter Les Ruelles des Morts par Hubert Félix et Lavilliers avec les Mains d'Or. Cette émission a été réalisée par Dominique, Céline, Georges, Alain, Simon, Jeanne, Bernard à la technique, et vous pouvez nous joindre au 08 05 69 67 58 pour laisser des questions sur notre répondeur. Merci à vous, bonne Pâques. Jarabi gehlemma ee jarabi jarabi kageneni maniya molo ee jarabi jarabi gehlemma ee monamur jarabi kageneni maniya molo.